Radio SBS, les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation. sbs.com.au/french.
Depuis le 10 août et jusqu'au 17 septembre se déroule le dispositif aérien Pégase 22 qui vise à démontrer la stratégie française dans l'Indo-Pacifique. La première phase du déploiement avait pour nom Henry Brown et visait à relier la Nouvelle-Calédonie en seulement 3 jours. C'est chose faite. La deuxième phase du déploiement qui a débuté le 19 août et jusqu'au 8 septembre a, elle, pour but de participer à l'exercice militaire Pitch Black en Australie. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le général Stéphane Groen, chef de l'état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, et actuellement à Darwin. Général, bonjour.
Bonjour, madame.
Avant toute chose, Pégase, Henry Brown, Pitch Black, autant de noms de missions qui ne parlent pas forcément à la majorité d'entre nous. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair?
Oui, alors comme vous l'avez précisé dans votre introduction, le déploiement que conduit l'armée de l'air et de l'espace dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est s'appelle Pégase 2022 pour projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est en fait la description de l'ensemble du déploiement. Il se compose de 3 phases. Donc la première phase, comme vous l'avez précisé, consistait à s'entraîner à une projection de puissance aérienne vers la Nouvelle-Calédonie. Et là, nous avions baptisé cette première phase qui a eu lieu entre le 10 août et le 17 août, Henry Brown, en l'honneur du soldat Henry Brown, donc ancien combattant qui avait rejoint les forces aériennes françaises libres, originaire de Nouvelle-Calédonie et qui avait sauté au-dessus de la France le 10 juin 1944 de manière à combattre avec les maquisards, notamment donc en Bretagne. Bon, la deuxième phase, c'est Pitch Black, vous l'avez précisé. Et puis la troisième phase consistera, à l'issue de l'exercice Pitch Black, à partir du 11 août et jusqu'au 17 septembre, à s'entraîner de façon bilatérale avec 2 armées de l'air de pays partenaires, que sont l'armée de l'air indonésienne, puis l'armée de l'air singapourienne.
En quoi la Nouvelle-Calédonie est une collectivité stratégique pour Paris? Est-ce que le fait de sa promiscuité avec la Chine représente une menace?
Non, en fait... Donc, le fait que la France et donc les armées françaises y déploient des moyens, bon, c'est déjà une réalité, vu que vous avez aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie un commandement militaire interarmé qui dispose de moyens aériens, de moyens terrestres et de moyens navals. Et puis, depuis l'année dernière, donc la France, dans le cadre de sa stratégie en Indo-Pacifique, eh bien, a coutume de déployer des renforts, notamment aériens, dans la zone. L'année dernière, nous étions déployés donc, en Polynésie française et puis à Hawaï. Donc, cette année, je vous ai décrit le déploiement que nous allons conduire. Après, le déploiement de cette année était planifié de longue date. Donc, en fait, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun rapport avec les tensions qui existent aujourd'hui et qui sont exacerbées entre la Chine et Taïwan. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, ce genre de déploiement permet à la France d'envoyer un signal stratégique et de dire que la France est capable de protéger ses intérêts et ses citoyens partout dans le monde et notamment dans le Pacifique et en particulier ses territoires comme la Nouvelle-Calédonie, comme la Polynésie et les ressortissants qui y habitent.
Et j'ai lu que les ambitions de l'armée de l'air d'ici à l'année prochaine, donc seulement 2023, c'était de pouvoir envoyer jusqu'à 20 rafales et 10 avions ravitailleurs en seulement 48 heures. Est-ce que cet objectif est réalisable?
Au départ, l'objectif a été fixé en 2023. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même plutôt viser 2025. L'année dernière, nous avons projeté donc un dispositif complet en Polynésie. Cette année, nous l'avons projeté en Nouvelle-Calédonie. Nous avons fait 2000 km de plus que le raid de l'année dernière. Et évidemment, l'année prochaine, l'idée, c'est de conduire un autre déploiement en Asie-Pacifique. La destination n'est pas encore déterminée. Et évidemment, d'augmenter le nombre d'appareils, que ce soit d'avions de ravitaillement en vol, de rafales et d'A400M, qui constitueront ce détachement.
Et là, on l'a dit, on est en plein dans la deuxième phase, c'est-à-dire les exercices en Australie. Les avions de l'armée de l'air français ont même été rejoints au-dessus du Pacifique par deux EA-18 de la Royal Australian Air Force. On le rappelle, général, hein, que la participation française à Pitch Black édition 2022 n'avait rien d'évident après la crise entre Paris et Canberra de l'année dernière, la crise qui a découlé de l'affaire des sous-marins. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une redynamisation de la coopération militaire entre la France et l'Australie?
La coopération militaire entre la France et l'Australie date d'il y a plus de 100 ans, hein, vu que les soldats français et les soldats australiens se battaient ensemble, soit dans les tranchées de la Somme, soit sur les plages de Gallipoli, et que effectivement la coopération militaire, même malgré AUKUS, elle ne s'est pas arrêtée. En revanche, effectivement, le fait qu'un nouvel élan politique soit redonné entre nos deux pays, le fait que nous participions avec donc trois avions de chasse, un avion de ravitaillement en vol et un CASA, petit avion de transport tactique, à Pitch Black, et que nous ayons plus de 170 aviateurs déployés sur les bases aériennes de Darwin, d'Amberley et de Tyndall, est une parfaite illustration de la redynamisation de la relation bilatérale entre la France et l'Australie. Effectivement, le fait que nous ayons été rejoints par deux EA-18 de la Royal Australian Air Force sur notre vol entre Nouméa et Darwin est très symbolique, et nous avons effectivement pu ravitailler les F-18 au moyen de notre A330 MRTT, et puis faire un bout de chemin ensemble. Et puis ensuite, nous avons continué sur Darwin, et les F-18 se sont posés sur Amberley.
On le rappelle pour nos auditeurs, les exercices Pitch Black sont organisés par l'Australie tous les 2 ans. Donc la dernière édition, c'était 2018. 2020, il y a eu le Covid. Donc là maintenant, nous sommes en 2022. Du fait qu'il y ait un réchauffement des relations entre la France et l'Australie, est-ce que vous pouvez témoigner qu'il n'y a que peu de différence entre l'édition de 2022 et ce que vous avez pu voir à l'édition en 2018 avant qu'il y ait une crise diplomatique?
Ah oui, il n'y a vraiment aucune différence, hein. Là, en plus, l'avantage, c'est que nous avions participé à l'édition 2018 avec des Rafales, certes. On avait encore nos anciens modèles de ravitailleurs qui étaient donc les C-135 et on n'avait pas d'A400M. Là, on a pu se déployer avec le trinôme d'une redoutable efficacité donc possède l'armée de l'air, qui est donc l'A330 MRTT, le Rafale et l'A400M. Nous avons des Australiens qui participent avec aujourd'hui des F-35, donc qui sont leurs avions de cinquième génération. Et aujourd'hui, je dirais même que le niveau de l'exercice de 2022 est supérieur à celui de 2018. Et notre intégration dans le système global qu'est l'exercice est complète et très satisfaisante.
D'un point de vue un petit peu plus technique, donc on s'éloigne de la diplomatie et des relations entre pays pour parler plus techniquement de nos avions français. On sait qu'un des Rafales n'a pas pu se rendre en Australie le vendredi 19 août comme c'était prévu parce qu'il était en panne. Pourquoi et quelles ont été les conséquences?
Lorsque l'on est un professionnel de l'aéronautique, hein, qu'on soit un pilote de ligne ou un pilote de chasse, effectivement, le fait qu'un avion puisse tomber en panne fait partie donc, du métier et des aléas du métier. L'avion en fait a eu une légère panne technique. Nous n'avions pas la pièce sur place, et donc comme il fallait que nous rejoignions Darwin afin de participer notamment à la séance d'ouverture de l'exercice, la séance formelle, ainsi qu'au briefing qui sont traditionnellement donnés par le pays organisateur à tous les équipages qui vont participer à l'exercice, de manière à leur rappeler les procédures de départ, les procédures d'arrivée, la manière dont le scénario est organisé, les règles de sécurité. J'ai donné l'ordre donc que le dispositif décolle avec seulement donc deux rafales pour que tous les équipages puissent rejoindre l'Australie à temps. Et puis, en fait, quelques jours après, donc j'ai envoyé via la 400M une équipe de mécaniciens, un pilote qui ne volait pas complètement dans l'exercice, pour pouvoir réparer l'avion et ramener l'avion. Et l'avion donc est revenu le lundi 22. Et nous n'avons rien perdu parce que finalement, le lundi 22, nous devions faire un vol le matin et un vol l'après-midi. Et ces deux vols ont été annulés. Le premier parce qu'un de nos collègues d'une armée de l'air partenaire, à Singapour pour pas la nommer, a eu un problème technique et a bloqué la piste empêchant les autres avions de décoller. Et l'après-midi, tous les vols de l'après-midi ont été annulés parce que la base de Darwin était encerclée de feux de bouche.
Et tout à l'heure, vous nous avez parlé de la phase 3 du déploiement. Donc là, on est en phase 2 jusqu'au 8 septembre. Ensuite, la phase 3 jusqu'au 17 septembre, où vous allez revenir en France en passant par l'Asie. Concrètement, jusqu'au 8 septembre, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça ressemble la participation à l'exercice Pitch Black?
Ces 3 semaines de vol dans lesquelles les difficultés augmentent de manière progressive. Cette première semaine, il s'est agi de faire donc des vols simples, c'est-à-dire de combats un contre un, deux contre deux, avec des armées de l'air avec lesquelles nous n'avons pas toujours l'habitude de nous entraîner. Les pilotes que j'ai dans le détachement n'ont jamais volé contre des pilotes japonais, contre des pilotes coréens, rarement contre des pilotes singapouriens. Et pratiquement jamais contre des pilotes australiens. Donc, en fait, l'objectif de cette première semaine, en fait, était de pouvoir se rencontrer les uns, soit voler les uns avec les autres ou les uns contre les autres. Les 2 prochaines semaines, là, vont voir, en fait, la difficulté augmenter et voir, en fait, des missions impliquant plusieurs dizaines d'avions de nationalités donc diverses et variées. Hein. Je rappelle que sur l'exercice, il y a 17 nations qui participent. Il y a plus d'une centaine d'avions qui sont sur le parking des bases de Darwin, de Tyndall et d'Amberley. Et donc, les 2 prochaines semaines, nous aurons des scénarios qui permettront d'avoir des missions où 50 avions de chasse vont s'entraîner au combat de haute intensité contre 50 autres avions de chasse. Quelque chose qui se fait rarement en Europe parce qu'en fait, nous n'avons pas l'espace aérien qui permet de le faire. Aujourd'hui, l'Australie, la zone d'entraînement au sud de Darwin est vraiment merveilleuse pour cela parce qu'elle permet de s'entraîner avec, comme chez nous, on appelle ça des formations massives d'avions qui rencontrent d'autres formations massives. Bien évidemment, dans le respect total des règles de sécurité, parce que dans ce genre d'exercice complexe, la première chose qui prime, et ce à quoi je suis extrêmement attentif, c'est la sécurité des vols et la sécurité des biens et des personnes. Nous sommes venus à 170, nous repartirons à 170.
Voilà pour la phase 2, et concrètement, la phase 3, comment est-ce qu'elle va se dérouler?
Alors, la phase 3, en fait, elle va constituer en la réalisation de 2 escales dites valorisées. La première en Indonésie du 11 au 14 septembre et la seconde à Singapour du 14 au 16 septembre. Ensuite, le 16 septembre, nous partirons aux Émirats Arabes Unis où nous ferons une escale sur la base aérienne 104 d'Aldafran, qui, je le rappelle, est une base aérienne française aux Émirats Arabes Unis et qui a été créée donc en 2008. L'idée, en fait, hein, de ces 2 escales valorisées, donc la première en Indonésie, la seconde à Singapour, c'est de, me concernant, rencontrer les autorités militaires donc des 2 pays, indonésienne et singapourienne, démontrer notre savoir-faire opérationnel, mais aussi notre savoir-faire industriel, parce qu'en fait, nous allons aller à Singapour et en Indonésie avec le fleuron de l'armée de l'air, hein, que sont l'A330 MRTT, l'A400M et le Rafale, d'avoir des actions vis-à-vis de nos ressortissants qui vivent à Singapour et en Indonésie, de manière à pouvoir leur présenter ce que fait l'armée de l'air et les avions sur lesquels elle vole. Et puis, bien évidemment, en dernier, mais comme diraient les Anglais, last but not least, s'entraîner conjointement en bilatéral avec l'armée de l'air indonésienne et l'armée de l'air singapourienne sur des missions simples de combat un contre un, voire un contre deux ou deux contre un. Voilà en fait l'objectif de la phase 3 de notre déploiement.
Général Stéphane Gouren, je le rappelle, vous êtes le chef de l'état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Merci beaucoup.
Merci.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.